Beaucoup de variétés de fenouil.
On en a pas mal, on en a ouais. 90 en Europe, on en connaît 15 en France. Bon, en Italie, c'est vrai qu'on en consomme énormément, on est fan de fenouil.
C'est un goût très amer, j'en garde un mauvais souvenir.
C'est vrai que le nom me fait peur.
Et si ça y paye le fenouil?
C'est un souvenir d'enfance, c'est une recette que ma maman faisait, braisée avec un peu de vin blanc, un peu d'huile d'olive, du beurre, du sel, du poivre. Voilà, tout simple.
Il a un goût anisé, à tel point que quand on ramasse des jeunes mini-fenouilles, des tout jeunes mini-fenouilles, on a vraiment l'impression d'avoir la saveur d'un verre de pastis, hein, sans alcool évidemment.
Coupé très finement, en salade crue, c'est parfait.
Tout se mange dans le fenouil.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster une émission entière sur le fenouil, vraiment. Je devine certains de nos auditeurs faisant la grimace derrière leur poste de radio. Oui, car le fenouil adore se faire détester. Nos amis du marketing diraient qu'il est du genre clivant. La faute peut-être à ses notes anisées. Opération réhabilitation du fenouil. On va même vous montrer, chers auditeurs, que cette plante potagère a de super pouvoirs. D'abord celui d'être à la fois un légume lorsque l'on consomme le bulbe et une épice quand on utilise ses graines, ou plutôt ses fruits, ça on va essayer d'y voir plus clair. L'autre super pouvoir du fenouil, c'est de jouer les transformistes en cuisine, en cru, en cuit, en salé, en sucré. Vous allez voir que le fenouil peut séduire bien au-delà des phobies et des a priori. On vous raconte et on cuisine le fenouil avec un maraîcher curieux et une gastronome italienne. Le maraîcher curieux, c'est évidemment Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour.
Formateur en maraîchage bio, poète du potager, auteur d'un livre dont on a déjà eu l'occasion de dire le plus grand bien, Le potager d'un frimeur aux éditions Terre Vivante, où il est d'ailleurs question de fenouil. Et puis, avec nous également, notre gastronome italienne, et ben, je vous le donne en mille, c'est Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Patronne de rap, une petite ambassade des saveurs italiennes dans le 9e arrondissement de Paris, et vous publiez événement Le Fenouil, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Vous en êtes à votre combienième titre dans cette collection, Alessandra?
11e, disons, le 12e va pas tarder.
Il y a eu le parmesan, le citron,
la polenta, absolument. Le pesto, la mozzarella.
Et le fenouil, évidemment, vous allez nous proposer quelques-unes des recettes extraites de ce charmant recueil. Vous allez même cuisiner en temps réel devant votre plaque de cuisson. Et là, je préfère dire à nos auditeurs que le plateau est plein de préparations anisées. Allez, un petit inventaire rapide.
Ben oui, il y a du finocchio dolce, le fenouil commun. Il y a du finocchietto, de la liqueur de fenouil, du gâteau, de la finocchiona, de la ruffiana, une conserve fenouil, un délicieux pain avec la fleur de fenouil, les saucisses.
Les taralli.
Et les taralli.
Des surtout, biscuits apéritifs au fenouil. On va vraiment se régaler. J'espère que vous avez faim, les amis. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, Arnaud Daguin et Dominique Hutin. Salut les copains.
Hello.
Salut tout le monde.
Arnaud.
Un coup de liane aujourd'hui, tiens.
Un coup de liane?
Oui, on va aller dans la forêt.
On va aller dans la forêt, je vous le confirme. Dominique, moi, pas tout à fait la forêt.
Non, pas tout à fait. Moi, je vous emmène sur le pourtour méditerranéen. Alors évidemment, on va cueillir du fenouil, mais pas que. On va glaner aussi un peu de vin qui, vous allez le voir, partage beaucoup plus de choses qu'on ne le pense avec le fenouil.
Eh bien, on va voir ça avec vous tout à l'heure. Dominique, retrouvez tous nos contenus, recettes, coups de cœur, vidéos, podcasts sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de se frotter au fenouil, je vous propose un petit instant tisane, si vous voulez bien, et à l'aveugle, devant vous, une tasse fumante. Je vous laisse goûter, seriez-vous identifié les plantes qui parfument cette infusion? Je dis les plantes, car elles sont au nombre de trois, même s'il y a une petite dominante aromatique. Alors, qui se jette à l'eau ou à la tisane?
Moi, je suis un peu embarrassé, mais
Dominique,
je veux bien être humilié en direct, c'est pas très grave.
Allez-y.
J'aurais quand même tenté des notes réglissées, mélisse, fenugrec.
Mm-hmm.
Bon, tiercé, peut-être dans le désordre.
Alors, fenugrec, c'est pas inintéressant. Il y a un arôme dominant.
Oui, parce que ça sent quelque chose un peu anisé, justement. La réglisse, oui, mais racine plutôt, pas la plante. Je sens d'une racine quelque chose d'un peu...
Bon, vous avez lâché un mot. Il y a effectivement une dominante d'anis. Xavier.
C'est très, très difficile, ouais, puis je dois avouer que je suis pas très coutumier des tisanes.
Oui.
C'est même du pastis, si, vous savez.
Un basilic anisé, quelque
d'accord.
chose comme ça.
D'accord. Intéressant.
Ouais, moi j'aurais dit badiane aussi, donc on n'est pas loin.
Badiane.
D'accord.
Un anis étoilé, quelque chose comme ça. Peut-être un peu de fenouil aussi, hein. Faut voir, mais bon. Faut...
Alors, c'est de l'anis, mais ce n'est pas de la badiane. Et ce n'est pas de l'anis étoilé. C'est plutôt un anis proche de chez nous. L'anis vert. Voilà.
Ah ouais, tout simplement. Ouais.
C'est de l'anis vert. Alors il y a, oui, il y a une association entre l'anis vert, mais également la menthe et la verveine citronnelle.
Ah, ouais, c'était ça le côté agrume.
Ouais. Côté citron, faux. Il est là.
Exactement, le côté un peu, ouais, c'est ça, ouais, parce que je trouve que c'est une jolie tisane qui souffle le chaud et le froid. Il y a à la fois de la verdeur, il y a de la rondeur, et tout cela est assez bien équilibré. Et cette tisane est l'une des 9 tisanes biologiques issues d'un projet que vous nous avez recommandé, Xavier Mathias. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler?
Oui, mais je vais parler que d'un de ses représentants. Ils sont nombreux, importants. Mais voilà, c'est Claude Richer, qui est directeur technique du domaine de Saint-Gilles.
Voilà.
Et qui est mon dernier patron, le dernier patron que j'ai eu. Donc voilà, c'est aussi une belle façon de lui rendre hommage pour moi, et qui ont développé donc au domaine de Saint-Gilles, qui est un ESAT, hein, donc qui a un public assez particulier.
ESAT, c'est établissement et service d'aide par le travail.
Voilà, c'est
ça. Les CAT.
Ce qu'on appelait les CAT avant. Et effectivement, ils font une production de tisane de super qualité. Ils sont au Collège culinaire de France. L'emballage est absolument magnifique. Et quand j'ai fait la réflexion avec Claude, il dit, qu'est-ce que t'as bossé sur l'emballage, il est beau. Mais il dit...
petits coffrets en carton très joli et très coloré.
Ouais, et puis il m'a dit, mais c'est normal, faut pas qu'on ait envie de jeter ce coffret. Rien ne se jette ici. Ni les gens, ni les coffrets, ni les boîtes.
Absolument. Le domaine de Saint-Gilles, installé dans une ancienne ferme, dans un superbe cadre naturel, le cadre de Pont-le-Voy, entre les vallées du Cher et de la Loire. On est dans le département du Loir-et-Cher. Et depuis plus de 20 ans, les terres du domaine sont cultivées en agriculture biologique. 18 hectares de maraîchage, 2 hectares consacrés aux plantes aromatiques. 22 espèces de plantes différentes quand même, hein, sont cultivées, séchées, ensachées, c'est difficile à dire, à la main par des personnes effectivement en situation de handicap. Donc ouais. La vocation, elle est à la fois médicinale, mais elle est également sociale, solidaire, et ces infusions sont distribuées dans de très nombreuses épiceries fines en France. Alors la boîte coûte un peu plus cher, cette boîte-là, et c'est vrai qu'elle est très belle. C'est 9 euros pour une vingtaine de sachets, mais c'est un peu plus cher que la moyenne parce qu'on fait un geste social en plus d'un geste de simple achat finalement.
Voilà, il est très important de rappeler aussi, parce que ça c'est leur démarche, ils y tiennent, c'est produit sur place. C'est pas de l'achat-revente et on en sache et on met les gens à faire du cartonnage en schématisant un peu, en caricaturant. Non, c'est vraiment cultivé, produit sur place et on travaille avec la production disponible.
Ce sont les infusions du domaine de Saint-Gilles. Tous les points de vente, la liste des points de vente est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Une dernière petite chose, je voudrais vous faire réagir, Xavier Mathias, sur une question d'actualité. L'épisode de gel qui a eu lieu ces dernières semaines avec les conséquences catastrophiques que l'on connaît, au point de menacer partout en France les récoltes de nos arboriculteurs et les vendanges de nos viticulteurs. Pour vous, Xavier Mathias, le dérèglement climatique est en cause? Mais pas que.
Ben bien sûr, c'est-à-dire que ce dérèglement climatique est indéniable. Le drame qui se joue auprès de nombreux agriculteurs aussi est indéniable. Pour ça, je voudrais que ça tempère un petit peu ce que je vais dire, parce que je veux pas paraître brutal. Néanmoins, je trouve que au-delà du réchauffement climatique, le drame qui se produit, est-ce que c'est pas aussi le drame de la monoculture? Je m'explique, hein, viticulture, j'aime beaucoup les viticulteurs, c'est pas le problème, j'aime beaucoup le vin aussi, j'aime beaucoup les arbos, donc j'aime beaucoup les fruits, mais est-ce que c'est pas déraisonnable, en fait, d'être arrivé dans un système économique qui fait que maintenant on maintient différentes formes de monoculture? Ça fait 10 000 ans que l'homme fait de l'agriculture, il a jamais fait de monoculture. Il devait forcément y avoir une bonne raison. On peut ajouter en plus, attention à ce phénomène de dérèglement climatique, des méthodes agronomiques en plus qui rendent les espèces
moins
plus sensibles. Voilà, plus sensibles au froid, au chaud, à tout ce climat épileptique. J'ai tendance à dire qu'il est un peu épileptique, le climat il saute d'un côté à l'autre, et il nous faudrait des sols et des espèces plus résistantes quand même, et surtout pas en monoculture.
Et vous voulez dire que la monoculture, elle affaiblit effectivement la résistance de la plante, ou c'est aussi le fait que le producteur qui est en monoculture met tous ses œufs dans le même panier, donc quand il perd quelque chose, il perd tout. Et oui. Il ne compense pas avec d'autres cultures.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on assiste en fait à un stress énorme, autant pour le producteur que pour la plante. Et quand on disait en bio, c'est prendre soin de la terre pour prendre soin des hommes, on voit bien quand même que c'est intimement lié, tout ça.
Et le dérèglement climatique rend toutefois aussi leur métier beaucoup plus complexe, aléatoire.
Voilà, et puis le froid nous fait aussi un peu négliger l'extrême sécheresse. Je tiens à en parler aussi, attention, pas une goutte d'eau quasiment cet hiver. Deux années précédentes extrêmement sèches, donc attention, il faut qu'on s'attende à avoir des années assez compliquées. Je trouve qu'elles se multiplient.
Et les sorties de bourgeons, on l'a vu avec les bourgeons prématurés.
Voilà, c'est ça le problème,
donc,
en fait.
Une des clés pour se sortir de ce problème en termes de viticulture, il semblerait, c'est ce qui est expérimenté, et c'est comme ça, ceux qui ont été le moins impactés, on a des gens qui ont été impactés à 100%, c'est ce qui est en train d'être un petit peu testé, la taille tardive. Voilà, c'est une des clés qui sera expérimentée dans les saisons qui viennent.
Arnaud Daguin,
oui, du gel, on en a connu. Toujours. Mais là, le vrai dérèglement, c'est justement que ce gel arrive après le débourrage des bourgeons, qui lui arrive très tôt. Et il est là, le vrai dérèglement. C'est redoux comme ça, de fin d'hiver, quoi. Et donc là, on voit bien qu'il va y avoir forcément une période d'adaptation et des hommes et des plantes. Il va falloir un peu réfléchir autrement. On est obligé.
Dans un instant, le fenouil au menu dont on va déguster derrière la console pour mitonner cette émission. Laurent Thomas, Théo Gomard, Nadia Chougui, mais on écoute un petit Mathieu Bogart avec le titre « Am I crazy » en imitant son accent en Frenchie. Nous, en tout cas, on est crazy du fenouil sur France Inter.
I like the blue, I like the green, I don't like two. Two choose between. I like the two. You see what I mean? I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue sky and the sea. I like I do. I like this tree. Am I crazy? Orange is nice. And so is yellow. Can't make my choice from my window. No better is no. A good world for me by the rainbow. I like to be, and I like the white light of the moon. I like the black night.
Dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, publié en 1873, et je lis dans l'entrée fenouil la description suivante. Plante ombellifère très aromatique, dont les graines ont une odeur anisée, surtout dans l'Italie méridionale. On mange le fenouil comme le céleri, il n'est pas rare de rencontrer les gens du peuple ayant leurs bottes de fenouil sous leurs bras et en faisant, avec du pain, leur déjeuner ou leur dîner. L'odeur qui en est agréable d'abord, devient désagréable par l'abus qu'en font les Napolitains qui en mettent dans tout. On comprend bien dans cette notule, écrite quand même par un écrivain censé être italophile, ouais, italophage.
Bien sûr.
Alexandre Dumas a beaucoup voyagé en Italie. On sent cette forte connotation italienne du fenouil, à la fois en légumes et en graines, mais aussi un peu le côté
Je t'aime, moi non plus, qu'on entretient avec ce fenouil en France, Xavier Mathias.
On va préciser qu'il s'agit bien des fenouilles. On en a deux. On a un qui est vivace et qui est assez spontané. Hein, encore, on trouve encore des spots spontanés de fenouilles et qui est cultivé pour ses graines, qui sont pas vraiment des graines d'ailleurs, botaniquement non plus. Ce sont des akènes, ce sont des fruits très aromatiques et son feuillage. Et puis on en a un autre.
Donc ça, ce serait le fenouil officinal.
Voilà, c'est ça, Phoeniculum vulgare. Et après, on a Phoeniculum vulgare var dulce, ce qui est ce qu'on appelle improprement fenouil bulbeux, parce que c'est pas un bulbe, hein, ce sont des pétioles qu'on mange déjà, qu'on appelait aussi fenouil doux de Florence, parce que c'était vraiment une spécialité italienne, et ça nous est arrivé avec la cour de Catherine de Médicis, j'aurais tendance à dire comme d'habitude.
Ouais, c'est ça.
Invité permanent.
Voilà. Ce petit fenouil-là, on le cultive comme annuel, et il est assez délicat, en fait, à cultiver.
Mais petite réticence française à l'égard du fenouil, son utilisation, notamment en ce qui concerne le bulbe, hein. Alors on va dire bulbe, hein, pour simplifier les choses.
Oui, bien
mais
sûr.
Le légume bulbe, il est vrai qu'on le consomme avec pas mal de succès, mais ce succès est finalement assez récent.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai tendance à le comparer au brocoli. Je commence à prendre de l'âge. Néanmoins, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de fenouil comme ça, et il n'y avait pas de brocoli comme on en voit maintenant. Mais brocoli, c'est un peu délicat, fenouil aussi, mais ils sont assez gentils avec nous, avec ceux qui produisent en bio, parce qu'ils n'ont pas vraiment de maladies de ravageurs spécifiques. Donc ça va être vraiment de les bichonner, mais voilà, ce ne sont pas tellement des produits qui demandent un quelconque traitement. Donc, en fait, on l'a depuis longtemps, ce fenouil bulbeux. J'ai trouvé une jolie citation de Georges Gibault, l'historien des légumes, qui dit « Le fenouil doux, dit aussi fenouil de Florence, est un légume fort estimable, mais qu'on s'obstine en France à ne pas cultiver.
» Alors, on reviendra aussi peut-être sur ces difficultés justement de culture, hein, parce que le fenouil, visiblement, donne du fil à retordre aux maraîchers professionnels ou amateurs. Alessandra, en revanche, alors là, aucune barrière psychologique, gustative à l'égard du fenouil en Italie. C'est un très, très vieil ami des gourmets italiens.
Absolument. Nous, on adore le fenouil sous toutes ses formes. Cru, cuit, mais surtout ça nous vient vraiment de l'Antiquité. Hein. C'était quand même, bien sûr, dans sa forme la plus sauvage. On le trouvait énormément dans la cuisine de la Rome antique, parce qu'on utilisait...
À l'état de légumes et à l'état d'épices.
À l'état d'épices, surtout, parce que...
Donc avec les graines, enfin les akènes.
Les graines, hein, les graines, les fruits. Et après aussi ce qu'on appelle, nous, le finocchietto, les plumes, qui est le fenouil sauvage, les petites feuilles qu'on peut ramasser donc sur les
bords de chemin.
Littoral,
ce que font aussi les Provençaux, les Corses, pour notamment griller un loup.
Oui.
Enfin, non méditerranéen du bar, mais c'est vrai que le loup au fenouil, au barbecue comme ça, dont on farcit le ventre effectivement de tiges sèches, ça c'est le fameux fenouil officinal que l'on trouve effectivement dans la garrigue.
Voilà, c'est ça qui pousse à peu près partout, que j'encourage à mettre dans son jardin. Quand il s'installe, il se ressème très très bien, il se ressème dans les allées, il se ressème partout, il est facile.
Le bar au fenouil d'Escoffier se sert des deux, hein, il se sert du bulbe et des plumes. Et moi j'ai appris tout gamin, comme cuisinier, à braiser très longuement les bulbes de fenouil pour que justement on leur enlève, et je trouve ça dommage un peu quand même, on les blanchissait d'abord à l'eau un peu salée, et ensuite on les braisait dans une garniture de braisage à four mourant tout l'après-midi. Donc je peux vous dire qu'ils étaient hyper compotés à la sortie. Et ça allait en garniture.
Confit.
Oui, c'était complètement. Ça se mangeait à cuillère, hein, ça. Et ils accompagnaient le bar au fenouil qui, lui, avait le ventre farci des plumes.
C'est voilà. Ça. En Italie, on a quand même un faible sur cette petite graine qu'on peut considérer comme une épice. Même si, alors, évidemment, on consomme cru et cuit ce fenouil légume.
Le légume, bien sûr. Il faut dire que nous, en Italie, surtout, on différencie même le bulbe dans deux variétés, qui n'est une différence pas du tout scientifique. Hein. C'est vraiment dans le langage courant, on appelle le fenouil femelle et le fenouil mâle.
Alors là, je vois Xavier Mathias qui est en train de... Alors, je ne sais pas s'il hésite entre la grimace et le fou rire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, on va avoir l'avis du botaniste.
Juste, c'est vraiment juste pour la forme. Le fenouil mâle serait ce fenouil qu'on a sous les yeux, là, bien dodu, gros,
renflé,
avec un ventre bien dodu. Et sinon, la femelle serait celui qui est le plus allongé. Et on aurait une différence. On utiliserait le mâle, surtout pour les salades. Pour
justement, ça ne tarde pas. On a déjà une question d'auditeur. C'est Jean-Kévin de Paris 11 qui nous dit Mâle, femelle, est-ce qu'il existe une variété de fenouil non genrée, non binaire?
Oh là là, on a mis le doigt.
Pour répondre à ça,
oui. Ah oui, effectivement.
Et puis, là, je suis désolé, Alessandra, mais vraiment, vous m'aidez pas. Hein, parce que, non, il n'y a pas de mâle et de femelle. Là, je ne vois pas deux fenouilles différents. Je vois un fenouil réussi, bien bulbé, un fenouil, le mâle. Je suis désolé, vraiment confus. Et un raté, le femelle. Vraiment, donc, je suis désolé.
Vous êtes en train de dire, cher Xavier, que pour une même variété, on peut obtenir effectivement des formes de bulbes différentes. On en voit, globalement, on va dire que le mâle, c'est plutôt un ballon de football, et que le femelle, c'est plutôt un ballon de rugby.
Absolument, on peut dire ça un petit peu.
On a des différences de formes qui peuvent être variétales, mais
ça dépend aussi de la façon de le cultiver, c'est ça ?
Oui. Il est vraiment, vraiment délicat, ce petit bonhomme. Ou cette petite bonne femme,
d'ailleurs. Même carrément capricieux, non ?
Oui, on a un technicien qui nous accompagne beaucoup, et j'en profite pour lui dire bonjour, Edouard Maignan, qui dit que le fenouil est un légume anxieux. Voilà. C'est-à-dire qu'il monte de peur, en fait. Il monte à graines de peur, le moindre stress. Et hop, la culture est ratée. Trop froid, trop chaud, pas assez fertilisé, manque d'arrosage à un moment. Et donc, effectivement, le fenouil, c'est un défi. Et bravo aux Italiens, hein, quand même, parce que c'est pas si simple.
Mais vous nous avez toujours dit, Xavier, que les Italiens étaient les champions du monde du maraîchage.
Alors là, quand même, oui, mais ils le confirment encore.
Moi, j'ai une question pour le maraîcher, justement. Une question de cuisinier. C'est moi qui la pose. J'ai toujours remarqué qu'il y avait des différences énormes entre les fils qui sont dans les pétioles, hein, entre justement ceux qui sont réussis, entre guillemets, c'est-à-dire les ronds, ce que Alessandra appelle les mâles, et les femelles. Et c'est vrai que nous, on nous faisait trier les fenouilles entre les ronds et les longs. On me disait, tu tries les ronds et les longs. Parce que dans les longs, les fils, c'est du câble, quoi. C'est de la corde à piano.
Qu'en pense Xavier Mathias?
C'est peut-être aussi une explication.
Mais je trouve que c'est des explications qui sont vraiment très justes. Par contre, qui s'expliquent pas par une différence de sexe, hein. mais plutôt par une différence de conduite de culture. Alors, il peut y avoir une différence variétale, une différence de saison et une différence de stress en cours de culture.
Et finalement, ça peut les flécher vers tel ou tel type de cuisine, du cru ou du cuit, selon que soit rond ou...
En Italie, on ne les écarte pas, d'ailleurs.
Donc les femelles, longs, un peu plus ligneux, on va dire, plutôt cuits, confits, compotés, selon la recette de notre ami Arnaud Daguin. Et les gros, plutôt croquants, juteux, voilà, pour les salades.
Pour la salade.
On les mandoline ou on les coupe fin avec un...
Enfin, nous, en Italie, on le coupe même en quatre et on le laisse sur la table à côté des tomates cerises. Hein. On le mange même cru comme ça. Comme un légume d'entrée, un apéritif.
Un antipasto, en fait. Presque.
Un antipasto.
Oui, absolument.
Sans assaisonnement, comme ça.
Venons-en à une première recette, chère Alessandra. On a un peu faim, je dois vous avouer. En plus, puisque j'ai eu la chance de l'avoir goûté. C'est une recette très réussie. Alors là, on va s'intéresser davantage à la graine de fenouil. Finocchio selvatico, ça veut dire fenouil sauvage. Même si on sait que ce fenouil, on peut aussi le cultiver pour ses akènes. Ou finocchietto.
Finocchiella, on dit aussi, selon les régions, finocchio amaro ou finocchio selvatico.
C'est ça. Et ça, c'est la graine de fenouil qu'on trouve surtout en France dans la pharmacopée, dans les tisanes. On va dire dans les médecines douces ou la phytothérapie. Mmh. Alors qu'en Italie, c'est une véritable épice reine qu'on trouve dans quantité de produits, à la fois des salaisons, mais également ces petits biscuits qui sont en train de circuler.
Dans les tarali des Pouilles, c'est un amuse-bouche. Donc, on dirait un peu les grissini qu'on ferait dans le sud de l'Italie, qu'on mange quand on en a envie, à tout moment. Ça croque sous la dent, mais on entend bien. Et ici, la version avec le finocchietto, donc avec la graine de fenouil, c'est la version la plus traditionnelle qu'on peut trouver dans les Pouilles. Et c'est un biscuit salé.
C'est délicieux.
Bari lecce.
La graine de fenouil, finocchietto ou finocchio selvatico, arôme herbacé, balsamique, dites-vous, et là où on rejoint à propos de Dominique, un arôme qui rappelle la réglisse aussi, hein.
C'est ça, oui. Un arôme plutôt de réglisse qu'on trouve beaucoup moins, en fait, dans le fenouil qui est plus doux. Mm-hmm. Et en plus, quand dans cette plante, plus on monte, qu'on va vers la graine, plus les arômes sont fortes, marqués. Et c'est pour ça qu'il y a presque parfois un arôme un petit peu de léger, de médicaments. Et il y a de l'anéthol, en fait, qui est contenu. Donc, c'est une composée organique qu'on retrouve dans la graine et qu'on a aussi dans le pastis.
Bien sûr.
Le retrouver, qui donne cette composition anisée et aussi un arôme un peu camphré, un
L'anéthol,
peu plus amer.
Eh bien, on va y venir avec notre ami Xavier Mathias, mais juste avant, c'est tarali, vous nous en décrivez les principales étapes de préparation.
Mais donc, on mélange farine avec une bonne cuillère de sel, il faut bien les saler, hein, une pincée de poivre, beaucoup de graines de fenouil. Moi, je les passe toujours un petit peu au mortier.
Vous m'en repassez, s'il vous plaît.
Bien sûr. Allez-y. Et de l'huile d'olive.
Et de l'huile d'olive, ça je la sentais.
Et de l'huile d'olive, ça se sent. C'est très important que l'huile d'olive, ce soit une huile bien, bien fruitée. Donc, dans ce cas, c'est une huile dépouille, un fruité un peu intense, parce que c'est vraiment un ingrédient principal. Hein. C'est pas juste une matière grasse qu'on mettrait dans la farine. On pétrit tout ça. Il faut bien faire attention. Il n'y a pas de levure, vous voyez. Donc, c'est le biscuit assez léger. On laisse juste reposer 30 minutes cette pâte. Et ensuite, on fait des petits boudins. On les entortille. Là, on l'a fait juste des petits ronds, des petits cercles.
Comme des grosses bagues au final.
Comme une bague de fiançailles, ouais.
Qu'on fait ensuite donc cuire dans l'eau bouillante, légèrement salée. On enlève à l'écumoire au bout de 2 minutes. On laisse sécher une petite demi-heure. Et ensuite, on met dans une plaque. On le place au four très chaud, à 200 degrés, pendant 20-25 minutes. Le temps qu'il soit bien doré comme ça.
C'est dangereux. Hein. Quand vous mettez la main dans le bol.
Ah oui, on ne s'arrête pas.
En général, il y a des chances pour que ça continue, effectivement.
Ça ouvre bien l'appétit. Hein.
Cher Xavier, Alessandra Pierini évoquait ce composé anétol qui serait finalement à l'origine de la saveur anisée du fenouil.
Oui, assez souvent, on le retrouve dans d'autres, hein, d'ailleurs. Hein, on va le retrouver dans l'aneth, hein, justement. Mais il y en a une autre aussi dans le fenouil, c'est l'estragol. Et qu'on va retrouver aussi, c'est pareil, dans tout ce qu'on a appelé les semences chaudes. Mm-hmm. C'est-à-dire aneth, cumin, carvi, etc. Et là, c'est vraiment frappant. En plus, ça, le fenouil a une énorme générosité. C'est-à-dire que quand il donne ces akènes, ces graines entre guillemets, mais on a une profusion absolument incroyable. Elles se gardent très très bien en plus à l'obscurité, au sec. On peut les réduire en poudre aussi. Enfin, il y a mille manières de consommer la graine de fenouil. Donc, pour les jardiniers chez qui le fenouil monte à graines prématurément, les graines aussi de ces fenouils bulbeux sont bons. C'est pas entièrement une mauvaise nouvelle. Laissez-le monter à graines. Les ombelles sont délicieuses. C'est très très bon. Et après, ultérieurement, les graines aussi sèches ou même encore vertes sont très bonnes.
On a des remarques d'auditeurs sur justement l'anétol. Alors, l'anétol peut donner un indice de parenté entre différentes plantes, notamment de la famille des ombellifères, puisque le fenouil est cousin avec l'anis vert, avec l'aneth, comme vous le dites, avec le carvi, avec le cumin. Tout ça, ce sont effectivement des ombellifères. Est-ce que pour autant, il existe des plantes qui contiennent de l'anétone, mais qui ne font pas du tout partie de cette famille botanique?
Oui, on aurait la badiane, on aurait aussi la gastache anisée. Donc on en a quelques-unes qui ont ce côté, alors je suis désolé d'être un peu trivial, mais ce côté un peu ricard, en fait, qu'on va retrouver. Ça, c'est systématiquement signe d'anétol, de concentration d'anétol, effectivement.
C'est ça, l'anétol, cette molécule qui donne effectivement cette saveur anisée. On fait une petite pause dans notre fenouil et on pratique le coup de lame avec notre ami Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Tiens, on va parler de la Vierge. pas de la Vierge Marie, non. On va parler de la forêt. De Marie Laforêt ? Non plus. Oula, je sens que je vous perds. Je vous perds dans la forêt, mes petits poussés. Bon, reprenons. Jadis, dans une de mes vies antérieures, je me baladais peinard dans la forêt de Bornéo. Et là, qu'est-ce que je vois ? La Vierge ? Ben non, justement, pas la Vierge. La Vierge n'existe pas. Cette évidence fut pour moi comme une apparition. La forêt vierge est un fantasme de citadin inculte. La forêt, elle, est cultivée. Vous croyez explorer une jungle sauvage et en fait, vous déambulez au beau milieu d'un jardin. Un verger, un potager, une ferme, oui, c'est une ferme. Une exploitation agricole où tout ce qui pousse, tout ce qui vit, a été soigneusement choisi, sélectionné, soigné, modelé, avec une science millénaire par les agroforestiers du coin. Il est vrai que cette forêt est plus compliquée à déchiffrer pour le profane qu'un alignement de platanes. Même les scientifiques s'y trompent, s'exclamant qu'un lieu si riche et diversifié ne peut qu'avoir été épargné par la main de l'homme. Alambiquée, bordélique au premier regard, cette végétation n'a pourtant rien d'aléatoire. À Bornéo se pratique l'agroforesterie du damar. Je précise que le damar n'est pas un sous-vêtement pour seigneurs frileux, mais une résine précieuse dont les insulaires font la culture et le commerce. Sous ces airs foufou de forêt primaire, la forêt-jardin se compose de petites parcelles savamment agencées au fil des siècles. Les fermiers sylvestres cultivent en symbiose riz, café, poivre, ainsi que de jeunes plantes de damar qui se développent au cœur d'une végétation plantée ou spontanée toujours plus luxuriante. Ah, bien sûr, ce système produit moins de résine à l'hectare que ce que fournirait une monoculture. Mais cette agroforêt génère bien d'autres merveilles, du bois, des fruits, des plantes médicinales et bien sûr du café, du poivre et du riz. Pas étonnant, ricanez-vous, il pousse n'importe quoi sous ces climats tropicaux. Ah ouais? Venez donc faire un tour en Afrique du Sud, dans le Kalahari, que les ignorants persistent à appeler « désert ». Ses habitants le considèrent comme une grande ferme qu'ils exploitent avec amour et science et dont ils connaissent par cœur chaque plante, animal ou insecte, et savent parfaitement les utiliser. Là où le pèlerin ne voit que sable et cailloux, le kalaharien évolue comme mamie au Super U. Il pioche dans les rayons sa bouffe, ses habits, ses remèdes et le papier cul. Sous nos cieux tempérés, le paysan de chez nous peut lui aussi produire de la biodiversité, et pas qu'un peu. Des plantes et des arbres cultivés ensemble pour se soutenir mutuellement. Pas de chimie, pas de charrue, des sols simplement couverts de paille pour donner à manger à la microfaune qui sera à son tour mangée par les oiseaux, etc., etc. La vie, quoi. Alors, de grâce, arrêtons de vouer un culte à la Vierge. Cessons de sanctuariser ces espaces où la main de l'homme ne doit jamais mettre le pied. N'opposons plus le cultivé et le sauvage, l'agriculture et la biodiversité. Produisons en protégeant et protégeons en produisant. Notre terre tout entière est une ferme.
Merci. Arnaud Daguin, un petit commentaire, Xavier ?
Eh ben bravo. Tout ben simplement, merci, ça fait du bien vraiment d'entendre ces mots frappés au coin du bon sens.
De nombreux merci. Auditeurs, on revient aux fenouilles évidemment, c'est le thème du jour. De nombreux auditeurs nous disent « Oh là là, vous oubliez de préciser que le fenouil a un rapport avec le marathon ». Alors là, je vois pas trop.
Oui, effectivement, marathon, c'est le nom du fenouil en grec ancien. C'est aussi la plaine dans la région attique, région historique de Grèce. Mm-hmm. Et donc, le marathon, donc la discipline olympique, elle a quelque chose à voir avec le fenouil. Parce que, effectivement, il y avait donc un soldat athénien qui a parcouru la distance qui sépare la plaine de Marathon avec Athènes en courant, donc c'est bien 42 kilomètres,
ah, la voilà
pour
cette
aller
distance
annoncer
étrange.
À ses concitoyens la victoire d'Athènes sur les Perses.
Mais alors, je vois toujours pas le rapport avec le fenouil.
Ben, donc, c'est que dans cette plaine de Marathon, on pouvait trouver énormément de fenouilles.
D'accord.
Donc, le nom du marathon
donc,
a
Marathos.
Été...
Certains apothicaires continuent de nommer de cette manière-là le fenouil. Voilà. Je ne dirai pas en grec, toujours. Je vais vous épargner ça.
Voilà l'explication. Ah, on en apprend des choses dans cette émission dominicale. Dans un instant, Alessandra Pierini, vous allez passer derrière la plaque de cuisson pour réaliser une super recette de...
polpette.
Waouh, et des polpettes anisées. Et puis, il y aura également un dessert avec le bulbe. Ouais, un gâteau avec le fenouil légume. C'est tout à fait possible, on va découvrir ça. Et puis, Dominique Hutin emmènera notre verre dans le...
dans le Var.
Vert dans le Var.
Oui, voilà.
Pas Var dans le verre ou Var dans le fruit.
Mieux que dans le fruit.
Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, on fait une petite escale au Mali.
Parti loin de mon corps, tu m'y as ramené.
était beau, non, ce duo entre la chanteuse magnifique. Camille et Balaké Sissoko, un joueur malien de...
De Cora, c'est très beau, c'est très beau.
C'est beau, hein. C'était vraiment très chouette. Bon, et ben la bonne nouvelle, c'est que il est l'heure d'on va déguster et on n'a plus la trouille du fenouil.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Des questions sur notre mail, notamment.
Oui, une question rigolote de Jean-Marc qui habite à la Turbie dans les Alpes-Maritimes. Il nous dit... Vous oubliez de préciser que Finocchio est aussi une insulte en italien pour stigmatiser les homosexuels. Ah. Connaissez-vous l'origine de cette expression et de cet usage ?
C'est vrai que Finocchio, c'est pas très reluisant hein, quand on dit...
Non, c'est quand pas on traite quelqu'un de Finocchio. C'est pas très joli, non, pas du tout, mais c'est très utilisé en Italie pour indiquer les homosexuels. C'est un peu l'équivalent de PD. PD en français. Et bon, il y a différentes explications, mais on pense qu'au temps de l'Inquisition, c'est quand on amenait, en fait, on brûlait vif les homosexuels, on jetait les graines de fenouil sur le bûcher, et donc pour atténuer un peu la puanteur de la viande. Mais aussi, il y a une expression en Toscane, c'est aussi à partir de là que toute la littérature s'est un petit peu développée sur ça, et qu'il en a parlé, donc c'est qu'on dit être un peu comme le fenouil dans la saucisse. C'est pour indiquer quelque chose de peu de valeur. Parce qu'en fait, le fenouil, c'était un peu l'épice du pauvre. C'était l'épice qu'on ramassait au bord du chemin, donc qu'utilisaient les paysans. Et c'était pas l'épice prestigieuse, les épices qui venaient d'Orient et qu'on vendait à Venise. Donc, pour indiquer quelque chose, c'était un peu un mépris. Hein. C'était vraiment un mépris.
Xavier Mathias.
On retrouve aussi dans certaines régions en France s'enfenouiller. Et s'enfenouiller, c'est hésiter, être pas très adroit.
En Italie, on utilise beaucoup le verbe infinocchiare.
Ah oui, là, c'est pas...
Enfenouiller, ça veut dire
embrouiller.
Surtout se faire avoir,
c'est
quelque
ça.
Part.
Parce qu'a priori, le fenouil servait à masquer le goût et l'odeur de certains aliments un peu avancés, on va dire. Et donc, les aubergistes pouvaient proposer du fenouil doux à croquer pour servir du vin peu commode à leurs clients. C'était une façon, finalement, de masquer un peu certaines odeurs un peu suspectes.
Plus les vertus médicinales du fenouil quand même, qui est aussi il n'est pas qu'apéritif, il est aussi digestif, etc. Donc je pense que en amont et en aval de la dégustation, ça devait faire du bien, je pense.
Ah oui, Xavier Mathias, quelques questions pour vous. Plein d'auditeurs ne comprennent rien à la saison du fenouil. On veut y voir plus clair.
Se dire tout simplement que là je parle d'une production naturelle, elle est très longue en fait. On peut commencer très tôt, s'arrêter assez tard au moment des premières gelées et surtout le conserver très longuement en cave. Il y a vraiment des variétés qui sont adaptées à ça. On n'est pas obligé d'avoir une chambre froide, etc. Les bulbes, quand ils sont bien formés, bien blanchis, peuvent se conserver très longuement. Je parle même pas des graines qui elles ont une conservation naturelle au sec pendant plusieurs années carrément, celles que je vous ai amenées là, ont plusieurs années. Et donc, se dire que le fenouil bulbeux, on va pas dire que c'est toute l'année, faut pas exagérer, mais quasiment, dans le sens où on peut en trouver même en plein hiver, quand ça gèle, etc., qui aurait été arraché, récolté et stocké naturellement. Et puis après, là, on reprend très très tôt. Hein, effectivement, le coup de froid nous met à mal. Là. Le coup de froid qu'on a pris il y a quelques semaines, parce que, donc encore une fois, le fenouil est un anxieux, et quand il prend 48 heures à moins de 7 degrés, bah voilà, il a tendance à monter à graines.
C'est ça, et beaucoup d'auditeurs nous précisent aussi, on parle d'un côté du bulbe, on parle de l'autre de la graine, mais on oublie de préciser que on peut faire des choses fantastiques avec les feuilles, que ce soit du fenouil sauvage ou du fenouil cultivé. C'est comme ça qu'on doit appeler ces feuilles qui ressemblent un peu à de la nette. Hein.
Moi, j'ai appris aujourd'hui, grâce à Alessandra, que quand même les Italiens sont vachement plus forts que nous.
Pourquoi hein.
Parce qu'ils appellent pas ça des feuilles, ils appellent ça des plumes.
Piumes, des finocchio.
Les piumes, c'est bien dit,
oui,
c'est des
exactement,
plumes.
Exactement, ce sont des plumes, des plumées, on pourrait dire en français.
Comment on dit ? On dit les fans en
français. Nous, on dit les feuilles, un peu bêtement.
Non, vulgaire.
Mais ouais, on n'est pas très poète. Et en plus de ça, on les utilise très peu, finalement.
Ah oui, ça, c'est vraiment dommage, parce que je le vois justement quand on achète un fenouil bulbe, nous avons pas mal de plumes, de plumées au-dessus. C'est ce qu'en général, les personnes, ils les parent et ils les jettent, alors qu'on peut tout utiliser dans un courbouillon, dans des préparations.
Alessandra, pronta per la ricetta?
Prontissima.
Si?
Certo.
Paul Pété.
Paul Pété, di ricotta, de ricotta, pain, donc de la chapelure de pain et des, du fenouil sauvage.
Et bien c'est parti. De fenouil. Alors, comment on fait ?
On y va.
Bon, Paul Pété déjà, première indication, c'est une
c'est,
boulette.
C'est la, enfin, c'est la
ce
boulette.
Ce sont des boulettes.
Ce sont des boulettes. Donc, si on la mange comme plat, on fera de grosses boulettes de 4 ou 5 cm de diamètre. Mm-hmm. Aujourd'hui, juste pour le partager sur le plateau, ou même si on mange ça en apéritif, on pourrait s'amuser de faire des toutes petites boulettes entre 1 cm de et 3 cm maximum de diamètre. Donc, on peut jouer et en faire plusieurs. Elles sont très jolies. Des petites
elles vont être façonnées sur le plateau dont on va déguster, mais également cuites sur la plaque de cuisson. Vous pouvez bien déjà sûr. Enfiler votre micro-casque. Et bien, c'est parti.
Alors déjà, je commence à allumer la plaque de cuisson pour chauffer de l'huile. Je vais mettre donc de l'huile de friture que je tapisse juste le fond donc d'une poêle anti-adhésive,
ouais,
que je mets donc
quand
au minimum pour l'instant. Ben oui, c'est bien, il faut presque que ça frit, hein, la petite boulette. On peut éventuellement aussi utiliser une friteuse, si on l'a, pourquoi pas.
Très bien.
Ensuite, je mets dans un saladier, pour 4 personnes, on mettra 350 g de ricotta de brebis. Mmh. On mettra environ 150 g de chapelure de pain. Si on veut s'amuser, on peut même aromatiser la chapelure avec des graines de fenouil, pourquoi
D'accord.
pas. Ensuite, donc, l'ingrédient star de la journée, la plume de fenouil. Ça, on en met environ 30 grammes. Donc, éventuellement, si on n'a pas le fenouil sauvage, les plumées des fenouils feront l'affaire. On mettra donc
un œuf entier.
Ensuite, pas manquer le parmesan, donc 100 grammes de parmesan râpé, je m'excuse.
Pas de recette italienne sans parmesan, surtout pour les boulettes.
Mm-hmm. Là, je sale, je poivre, et ensuite, c'est vraiment l'atelier boulette, je mets des gants, et je commence à mélanger tous les ingrédients dans le saladier, et à la maison, on peut éventuellement le faire avec les enfants. Voilà, on s'arrête, dès qu'on arrive à englober tous les ingrédients et qu'il en reste plus en fait dans les saladiers et que toute la pâte se détache bien des parois. Ça veut dire qu'on a la bonne consistance. Je mets un petit peu de farine dans une assiette,
ouais.
de la farine blanche. Je prends un tout petit peu de pâte.
Alors là,
je
on
fais
a
la petite boulette.
Un diamètre quoi, de 3 cm.
Là, on fait oui.
Donc là, vous roulez entre
je
les
roule
paumes
la
de
deuxième.
Vos mains.
On sent une maîtrise dans le
Incroyable.
Roulage.
Ah, mais oui, mais de toute façon, la cuisine d'Alessandra.
Je roule dans la farine. Voilà, la farine permettra de faire un contact avec l'huile, une petite croûte. L'huile ne pénétrera pas dans la boulette, donc ça sera pas trop gras. Et voilà, ça fait des jolies,
et là, vous en aviez,
jolies petites billes.
Comme la vie est bien faite, vous en aviez d'avance. Waouh, rien donc, que ça déjà, on a déjà les glandes salivaires un peu en surchauffe.
On monte un petit peu. Dès que l'huile est chaude, je plonge les boulettes, une à une, dans la poêle. Et ça commence à frire.
Ah, ça grésille. C'est parti pour quel temps de cuisson, Alessandra ?
Ça y est, donc là, ça fera 5 minutes, parce qu'elles sont toutes petites.
Mm-hmm.
Et selon la taille, on peut pousser la cuisson jusqu'à 10 minutes maximum.
Alors, je vous propose une chose. On va faire une petite pause liquide avec notre ami Dominique Hutin. Et à la sortie de sa chronique, comme la vie est bien faite, on tentera un accord avec vos polpette al finocchio. Oui, c'est ça, al finocchio, absolument.
On va déguster sur France Inter.
Cher Dominique, on va donc dans le Var, mais c'est à peu près le seul indice que j'avais.
Oui, en fait, on va même prendre un périmètre un petit peu plus large, puisqu'on va explorer le berceau du fenouil avec le pourtour méditerranéen. Alors, pourtour méditerranéen qui, en matière de vin, n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que le vin est arrivé en France via la Provence, alors évidemment pas à pied, mais avec les phocéens que vous connaissez, qui sont d'origine grecque, qui font de Marseille en moins 600 et qui vont apporter avec eux une merveilleuse plante. Alors, pas le fenouil, non, mais la vigne. Quoique, on prête au fenouil des origines grecques, justement.
Et c'est ça, on en parlait,
et
marathon.
Voilà, comme par hasard, voyez. Donc le fenouil et le vin, finalement, sont faits pour se rencontrer. Plein de bonnes raisons d'évoquer la Méditerranée, la Provence, etc. Mais en voilà une autre. Les bouteilles de Côte de Provence, lorsque vous les regardez bien, alors vous en trouverez beaucoup, hein, c'est le plus grand ensemble viticole de la région provençale. quand vous les regardez bien, parfois apparaît une dénomination géographique complémentaire en petits caractères qui vient souligner le caractère singulier de certains secteurs, d'espèces de crues spécifiques. On connaissait la Sainte-Victoire, Fréjus, la Londe, Pierrefeu, et on accueille aujourd'hui une nouvelle qui s'appelle Notre-Dame des Anges.
Waouh!
Voilà. Et pour saluer l'arrivée de ce nouveau messie, j'ai mis en ligne mon carnet de vigne.
Mais non.
44e du nom, monsieur Arnaud, parfaitement, oui. Avec des rouges, des rosés de cette appellation Notre-Dame des Anges qui ne déroge pas quand même au type provençal qui veut que la région soit à 80-90% en rosé.
Alors, quand même, ouais.
J'ai rempli les verres pendant la cuisson. Vous aurez donc et des rouges et des rosés. Le rosé, c'est le château des Bertrands. La cuvée Rascasse qui est très pâle, vous voyez, comme elle est, on dirait un blanc taché de rose, simplement.
Mmh. Mais alors Rascasse, c'est pas comme le poisson, hein.
Du
c'est
tout.
R-A-S-C-A-S.
Voilà, exactement. Alors, c'est très pâle, mais en même temps, son discours est beaucoup plus corsé que le laisse penser sa robe. C'est long, certes c'est diaphane, mais c'est aussi équilibré, et puis il y a une petite virgule d'amertume noble, au final, qui vient un peu structurer l'ensemble. Et puis à l'autre bout du spectre, le rouge, qui lui vient de chez Réal d'Or, en 2019 aussi, qui lui est vif et épicé, équilibré, et autant l'autre était diaphane, clair, brillant, éclatant, lui c'est plutôt la truffe, la réglisse, bref, c'est noir, mais avec une belle acidité.
C'est un peu animal.
C'est un peu animal, c'est un peu
très
tercier.
Belle structure hein, sur le rouge. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, ça. C'est une espèce de charpente.
En même temps, les tanins sont plutôt ronds et
soyeux. Ils sont beaux. Ils sont agréables, mais puissants.
Ce qui laisse penser, si je reprends vos termes, c'est que tous ces vins n'ont effectivement pas le même usage. On va flécher, peut-être pour des poissons nobles, des choses comme ça, le rosé. Je crois qu'on a parlé de loup au fenouil depuis le début de l'émission.
Il y a plusieurs ça occurrences. Ça serait pas si mal.
Et ben voilà, on a quelques chose, alors qu'on va tendre peut-être vers des viandes ou des choses comme ça pour ce qui est du rouge. Vous avez cité le Var tout à l'heure pour situer notre récit, François Régis. Mm-hmm. Le Var, on le sait, ça peut être sujet à des montées de température un petit peu spectaculaires, c'est vrai. Mais, les ardeurs du soleil sont modérées par des hivers qui sont, eux, très rigoureux. Et forcément, ces fortes amplitudes thermiques vont créer un contraste qui va permettre de combiner maturité et fraîcheur. Et ce qui fait qu'on accouche là-bas de vins pour lesquels les mots fraîcheur et finesse ne sont pas déplacés. Si cela ne suffisait pas à vous séduire, et vous savez qu'on boit d'abord avec les yeux, eh bien, Notre-Dame des Anges, c'est aussi un environnement privilégié avec des pins parasols, des chênes, des châtaigneraies. Et puis tout là-haut, tout en haut du vignoble de Notre-Dame des Anges, dans le massif des Morts, il est dominé par une chapelle éponyme, Notre-Dame des Anges. C'est le nom de la chapelle d'altitude. Et il se trouve, par le plus grand des hasards, soyez attentifs, par le plus grand des hasards, que l'anagramme de Notre-Dame des Anges, c'est déesse montagnarde. Voilà donc qui atteste qu'elle soit bien
jolie.
Tout là-haut perché. Elle est à ce point haut perché que de là-haut, on voit la mer, l'île de Porquerolles, Toulon, et je serais pas étonné même qu'on puisse peut-être apercevoir la bonne mère.
Exact anagramme ou pas, ou vous trichez, non? On va vérifier. Hein.
Déesse montagnarde dans Notre-Dame des Anges.
Pas mal.
Je peux vous signer un papier.
Joli.
Voilà. Bref. Vous allez convenir quand même avec moi qu'avec un nom pareil, un voisinage à l'avenant, une émission le dimanche, tout invite à faire de ce Notre-Dame des Anges un vin de messe, ce qui sera quand même en ce 2 mai béni des dieux. Donc merci aux actions de grâce bienfaitrices de la bonne mère de Notre-Dame des Anges qui, grâce à elle, miracle, font que vous trouverez notre carnet de vigne Notre-Dame des Anges dès aujourd'hui sur le serveur de France Inter. Oui, parce que les voix du Seigneur sont compatibles avec la 5G. Et pour conclure, Un petit extrait, vous savez que je suis confié en dévotion.
Oui.
Un petit extrait des évangiles qui n'est pas
forcément
le plus connu.
Oh
il est très court. Au nom du Ver, du Vice et du Simple d'Esprit.
Ah, bon, on va se faire des amis, tiens. Et juste, merci Dominique pour cette chronique très inspirée. Une petite fourchette de prix sur ces vins.
Alors, le rosé, c'est un petit peu haut perché, c'est 22. 16 € si je retrouve mon papier pour le rouge. Par contre, le panorama, lui, commence à 7 €.
Très bien, merci beaucoup Dominique. Est-ce que ces polpettes, elles sont prêtes?
Elles sont prêtes,
bon,
elles sont prêtes. Alors,
va passer autour du plateau.
Oui, il le faut.
Je vous propose une petite dégustation.
Passer. Attention, c'est chaud. Hein.
Plutôt rouge ou rosé sur ces polpettes,
on
Dominique
rigole plus.
Sans hésitation, le rosé, parce que le rouge, comme on l'a dit avec Arnaud tout à l'heure, c'est quand même assez structuré.
Oh là là, elles sont belles. Bien dorées, hein. Il faut qu'elles aient cette couleur.
C'est magnifique.
Joliment cuivré.
Oui, c'est ça. Il faut faire attention, un peu les surveiller pendant la cuisson et les retourner dans la poêle.
Oh là là. La texture, moelleux, rebondissant.
Et on retrouve bien les fameuses plumes de fenouil.
C'est vraiment délicieux. Il y a un côté très frais.
Oui.
Avec, qui est vraiment tout à fait étonnant.
Avec ces fameuses plumes.
Mais oui. Et on pourrait se dire, farine, œuf, ça va être un peu épais. Pas du tout. C'est super frais, en fait.
Ah non, vraiment, bravo. Tout à fait impressionnant.
En général, on les déguste seuls ou on leur adjoint un petit quelque chose ou...
Bah,
c'est une dimension apéritive.
Je les accompagne d'une salade de fenouil, pourquoi pas, un bulbe à la mandoline. Et sinon, un apéritif comme ça, toute seule, ça, ils se mangent bien. On pourrait les prévoir aussi avec une mayonnaise, peut-être une mayonnaise très légère au citron.
Et on va passer directement au dessert. Alors là, j'avoue que j'en crois pas mes yeux, parce qu'il est très beau. Il plastronne sur le plateau dont on va déguster. Et pourtant, c'est un gâteau. Donc, on parle vraiment d'un dessert. Fait avec du
bulbe de fenouil.
Mais d'où ça sort?
Ah bah ça sort de ma tête.
C'est une invention personnelle.
Je l'ai inventé, oui. Bah, peut-être que d'autres personnes l'ont fait avant moi. Attention, mais je n'ai pas vraiment suivi une recette.
Je ne l'avais jamais mangé avant.
C'est pas vraiment une tradition italienne. C'est une tradition italienne d'utiliser beaucoup de légumes dans les desserts. On peut penser aux courgettes, aux aubergines, on
Absolument.
Le fait énormément.
Et les anglo-saxons utilisent beaucoup la carotte. Mais vous avez décidé, pour les besoins du fenouil, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure, et bien tout simplement d'inventer une recette.
Oui, j'ai inventé cette recette avec pour un gâteau pour 6-8 personnes, 300 grammes de bulbe de fenouil que je coupe à la mandoline. Tout simplement.
Cru.
Juste nettoyé. Ensuite, je mélange avec 200 g de farine et 100 g de poudre d'amande. Éventuellement, on peut mettre aussi 100% de poudre d'amande. J'ai essayé de faire ça avec l'amande, c'était très bien. Ensuite, je râpe du zeste d'orange, de deux oranges de Sicile. Mais ça marche très bien avec du citron aussi. D'ailleurs, le fenouil avec les agrumes, ça matche super bien.
Tout à fait.
Et même avec la bergamote, c'est extraordinaire.
C'est vrai que c'est toujours mariage d'amour, hein. Fenouil agrumes. Que le zeste et pas les jus, des agrumes.
Que le zeste, absolument. Parce que justement, le fenouil, c'est pas tellement le goût anisé qui va donner à ce dessert. C'est plutôt l'orange qui va parfumer. Le fenouil va donner une texture très moelleuse, vraiment une grande légèreté.
Mais il y a toujours un petit côté amande, je trouve, naturel chez le fenouil. Quand même, je suis pas tellement étonné que vous ayez pu faire un dessert avec.
On le sent.
Alors, il y a la poudre d'amande, mais il est vrai que le fenouil en lui-même peut avoir des goûts comme ça d'amande fraîche.
C'est la première fois que je goûte. C'est la première fois que je goûte de l'orange associée à du fenouil, et je trouve que c'est très très réussi.
Je le fais
délicieux. Alors moi, je donne un petit truc à nos auditeurs pour braiser du fenouil justement. Vous mettez le fenouil, le bulbe de fenouil coupé en deux dans une cocotte avec un peu de matière grasse, éventuellement une gousse d'ail, une feuille de laurier, et vous pressez le jus d'une orange.
Ah ouais.
Et ça va contribuer à la caramélisation justement du bulbe de fenouil. C'est en général une recette qui a beaucoup de succès et qui atténue un peu les notes anisées du fenouil légumes. Extraordinaire, un grand bravo.
Super.
Vraiment,
Très bon. Ah ouais, non mais ça c'est vraiment, vraiment délicieux. Ah, bravo.
C'est chouette,
une bonne cantine.
C'est un régal et la texture moelleuse, un peu mouillée. Franchement.
Ah non, mais j'ai réussi au premier coup, c'était quand même incroyable.
Alors, vous m'avez dit deuxième coup.
Le premier coup, c'était bien. Le deuxième essai, j'ai mis un peu plus de sucre parce que moi, je ne sucre pas trop en général.
C'est un régal absolu. J'imagine que le fenouil apporte aussi un peu de sa sucrosité. Un grand bravo, la recette du gâteau au fenouil ainsi que la recette des tarali, mais également des polpettés aux plumes de fenouil. Tout ça est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Le fenouil, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Ça, c'est aussi le livre pour retrouver 10 très belles recettes autour du fenouil en plumes, en légumes, en épices. Un grand merci Xavier Mathias pour avoir encore éclairé cette émission de vos lumières.
Ah mais non mais c'est un vrai plaisir, je reviens quand vous voulez et je passe une petite commande de dessert au fenouil.
Ah ok, c'est un régal.
Avec plaisir.
Je prédis un gros succès et un beau destin à ce dessert. La semaine prochaine, un sujet passionnant, les algues au menu dont on va déguster avec un reportage en Bretagne, des recettes en plateau. Manon Fleury, Antoine Gerbel seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Salut Dominique, à la prochaine.
Oui mais c'est toujours quand j'ai la bouche pleine que vous parlez.
Je vous dis juste au revoir. Salut Arnaud.
Au revoir.
Au revoir Xavier, merci. Au revoir Alessandra.
Au revoir.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.